Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside et avec moi pour commenter l'actualité de la WWE, le Monday Night Raw du 13 février 2017, l'Amiral Armbar. Catch Up, épisode 42. Ça va bien, Amiral? La
ouais.
Forme?
Ouais, et toi?
Ah, écoute, la pêche. Ça se passe à Las Vegas, Nevada, notre bon Monday Night Raw. Et au programme de ce soir, Roman Reigns veut se booker contre Braun Strowman. Samoa Joe est interviewé par Michael Cole. Nous sommes conviés au premier festival de l'amitié, le Festival of Friendship de Chris Jericho. C'est enfin l'arrivée d'Emalina. Et on aura droit également à une défense du titre féminin, Charlotte Flair contre Bayley. Voilà le programme. Alors, sachez que ce soir, l'émission est dédiée à Chavo Guerrero, senior, qui nous a quittés cette semaine. Petit hommage à lui. Et l'émission, pour le coup, démarre avec Stephanie McMahon, une fois n'est pas coutume. Elle arrive au ring, elle nous explique qu'elle a donné sa semaine à Mick Foley, qui était visiblement fatigué, hein, puisque effectivement la semaine dernière il s'est un peu ridiculisé à l'antenne, hein, en pleurnichant là, un petit peu contre le traitement qu'on lui faisait. Donc voilà, elle est là sur le ring, mais elle est vite coupée par Roman Reigns qui débarque, le Big Dog. Il nous explique qu'il veut Braun Strowman et il veut pas attendre Fastlane pour l'affronter, il le veut ce soir, il le veut tout de suite. Donc là, Stéphanie lui explique que Braun, il a déjà un match contre Mark Henry, le World Strongest Man, ce soir. Donc ça va pas être possible. Et puis que de toute façon, Roman, il faut qu'il arrête de demander des matchs à tire-larigot comme il le fait chaque semaine. Là, pour lui, les passe-droits, c'est fini. Alors Heinz, il est pas content, ça hausse le ton. Il dit voilà, bah, je crois que j'ai pas été assez clair avec toi, Steph. Mais il est coupé. Une musique retentit, la musique de Anderson et Gallows, les champions tag team. Qui débarquent, et ils viennent remettre le Big Dog à sa place, ils viennent jouer les gros bras pour Stéphanie, donc ça Stéphanie, ça lui plaît bien, et elle nous book un match handicap, Roman Reigns, contre les champions tag team Anderson et Gallows, et elle nous book en l'honneur de Teddy Long, le nouvel intronisé au Hall of Fame, il sera intronisé cette année, ce bon vieux Teddy Long. Donc le match, c'est tout de suite, c'est maintenant. Roman Reigns, il réussit à prendre l'avantage parce que c'est Roman Reigns, forcément c'est le plus costaud, et donc face à Karl Anderson, il s'en va pour asséner son Superman Punch létal, hein, qui devrait mettre fin au match, mais Gallows en profite pour rentrer dans le ring, il intervient, et les deux se mettent à tabasser le Samoan, et du coup ils sont disqualifiés, hein, parce que ça peut être un match handicap, on ne peut pas se mettre à deux sur un adversaire. Donc victoire quand même de Roman Reigns par disqualification. Donc les champions par équipe vont quand même tenter de porter un Magic Killer sur Roman Reigns, mais ce dernier se dégage contre toute attente. Dégager la Magic Killer, c'est pas facile, mais il y arrive. Superman Punch dans la face de Gallows, et là Anderson essaye de l'attaquer avec une chaise, hein, tant qu'à faire, on prend les grands moyens, mais ça suffit pas non plus. Roman Reigns le défonce également. Voilà, ça se termine sur ce Roman Reigns qui look strong. Mon bon amiral, qu'est-ce que t'as pensé de cet opener assez classique, je dirais?
Il est tellement fort, ce Roman, tellement fort. Opener classique, ouais, mais problème quand même, hein. Comme je sais que tu adores ça, les héros qui commencent avec Stephanie McMahon dans le ring, ça augure rien de bon. Roman Reigns qui arrive non plus, on fait une référence à Teddy Long qui rappelle les heures sombres de SmackDown, et là bah, Roman Reigns qui continue et qui se paye tout seul les champions tag team. Alors c'est vraiment dommage, je pense surtout pour Gallows Anderson, qui viennent récupérer le titre, qui sont pas encore solidifiés comme étant les champions établis, et là perdre contre un seul mec, même par disqualification, c'est moche, même si c'est Roman Reigns. Donc j'espère que ce qu'ils ont prévu pour Gallows Anderson pour l'avenir sera un peu plus glorieux, parce que là ça part mal quand même.
Ouais, clairement, on dirait qu'ils vont jouer les gros bras à l'ancienne, hein, comme on a souvent le cas de tag team comme ça, qui deviennent les bras droits de l'autorité. Pourtant, de grands champions au Japon, hein, Gallows Anderson.
Ça, on n'arrête pas d'entendre au micro, hein, Corey Graves, oui, mais ils ont tout gagné au Japon. Bref, on aimerait bien aller voir dominant aussi à la WWE, ce serait pas mal. Hein.
Ce serait pas mal, ouais. Mais apparemment, c'est pas au programme. Roman Reigns imbattable, bah écoute, c'est ce qu'on va voir, c'est qu'on va avancer un petit peu dans l'émission. Et on arrive donc au match qu'on a annoncé un petit peu plus tôt, Braun Strowman contre Mark Henry. Donc un combat de Golgoth, hein, comme la WWE en a le secret. C'est d'abord serré, hein, échange de concours de force entre Strowman et Henry. Et Strowman, ce malin, parce qu'il n'est pas seulement puissant, il est aussi malin, il profite d'un moment où l'arbitre les sépare dans le coin du ring pour placer un cheap shot, une bonne droite dans la face de Mark Henry. Strowman va enchaîner ensuite les coups d'assommoir sur ce bon vieux Mark Henry, qui encaisse et qui finit par réagir et tenter son World Strongest Slam, mais Strowman réussit à le contrer en utilisant un peu la vélocité, l'élan du mouvement, hein, parce qu'il est quand même, c'est quand même un colosse, hein, ce Strowman, donc ça fait chuter Henry qui n'arrive pas à terminer son move. Henry est ensuite assommé par rien moins qu'un dropkick de Braun Strowman. C'est quelque chose, un dropkick de Braun Strowman quand même. Dropkick out of nowhere. Le monstre Strowman va ensuite porter un puissant power slam sur Henry et le couvrir pour le compte de 3. Victoire de Braun Strowman sur Mark Henry. Nouvel exploit à son actif. Mais ensuite, évidemment, c'est Roman Reigns qui débarque, le Big Dog. Il veut attaquer Braun, mais ce dernier l'accueille direct avec un coup de poing qui repousse Roman Reigns à l'extérieur du ring. Ce dernier est perplexe, on le voit un petit peu hésitant, c'est pas souvent que ça arrive, mais il se ressaisit, il remonte sur le tablier du ring, un coup de guillotine sur Braun Strowman qui revenait à l'attaque, Superman Punch, mais Strowman c'est peut-être le doomsday de Roman Reigns, car il ne tombe pas et il finit même par porter un power slam au Samoan, qui du coup est calmé. Pour cette semaine, Strowman victorieux. Qu'est-ce que t'as pensé de ce match, Amiral ?
Alors le match en lui-même n'était pas sans ça, c'était assez rapide. Hein. C'est sûr que dans le ring, c'était pas d'un rythme effréné. Après, comme dit Hank, petite pensée à lui, c'est quand même assez impressionnant de voir Strowman porter comme ça Mark Henry. Mark Henry qui précédemment donc essayait de porter le World Strongest Slam et chute, hein, sous le poids du monstre Strowman. Donc bon, bel exploit physique encore. Donc là, ils sont partis pour lui faire affronter tous les gros balèzes du roster la semaine prochaine. Strowman est annoncé contre le Big Show. Donc tout ça pour monter sa crédibilité après avoir jobé, après avoir mangé des jobbers pendant des semaines. Donc on lui donne enfin la compétition qu'il demande pour en faire un adversaire de poids contre Roman Reigns, qui est tellement strong qu'il faut quelque chose en face qui soit énorme pour qu'il y ait un intérêt. Donc voilà, je ne boude pas mon plaisir de voir Roman Reigns aplati au sol dans un show, c'est rare. Voilà, donc il construit le match par logique avec ce Strowman qui résiste à 1-2 Superman Punch, ce qui est peut-être la seule exception qu'on a actuellement dans le roster. Donc
c'est ça, ça va peut-être devenir la némésis de Roman Reigns, ce Strowman là qui a l'air indestructible désormais. Moi, je suis impatient de voir ce que ça va donner, les deux s'ils s'affrontent dans des matchs sans disqualification là, ils peuvent casser tout le décor, je pense, à eux deux, voire détruire le ring.
Faut faire gaffe à la cardio de Strowman par contre, hein, parce qu'un match comme ça sans disqualification à l'extérieur où on pète tout, ça peut être très éprouvant, j'imagine, au niveau du souffle, etc. Je sais pas si Strowman il a la capacité cardio pour tenir un long match comme ça.
C'est vrai qu'au Rumble, il avait l'air de... Il était un peu rouge.
Un peu à la galeuse, quoi. Rouge plus moine. Après, le problème aussi, c'est que on est toujours avec le déficit de popularité de Roman Reigns, hein, qui est boudé par une bonne partie du public. Et comme Strowman, même s'il est plutôt heel, c'est pas non plus un heel que les gens détestent.
Ouais.
J'ai peur que le public, lors de Fastlane, soit derrière Strowman, en fait, et jubile à chaque fois qu'il détruit Reigns. Donc,
C'est ça. Il y a toujours ce décalage entre ce que veut vendre la WWE et ce que crie le public. C'est le danger, hein. Toujours, quand on veut conserver Roman Reigns en top babyface, hein, tant que ce sera ça, on risque d'avoir ces shows qui seront hijackés par le public.
C'est ça. Faudrait limite qu'il fasse faire à Strowman un truc vraiment dégueulasse où tout le monde quasiment eut ce qu'il fait, et là Roman Reigns peut-être serait vu comme étant quelqu'un de cool, de sympa, de gentil.
Voir, Ouais, mais on voit bien que Strowman aussi, ils ont de gros projets pour lui. Donc, effectivement, est-ce qu'il n'y aura pas un face turn à suivre aussi, un peu organique comme ça? Mais voilà, on va être curieux de voir ce qui va se passer, quels sont les projets pour ces deux top guys. Et en tout cas, on est content de voir Roman Reigns se faire aplatir. Fois n'est pas coutume. Enchaînons sur votre séquence préférée. Lancez la musique, le Jobber's World. Jobber's World. Alors, du monde, ça se bouscule, Jobber's World. Le Kofi Kingston, accompagné du New Day, affronte et bat Bo Dallas. Alors, ils sont venus vendre des crèmes glacées. Ils sont venus avec les blueprints des logos pour les prochaines crèmes glacées du New Day. Et Bo Dallas a déchiré les blueprints. Mais bon, il perd dans le ring. Sur un Trouble in Paradise de Kofi. Noam Dar, toujours accompagné de Alicia Fox, perd face à Jack Gallagher. Ce dernier a été confronté à Roy Neville en pleine interview backstage. Voilà, il voulait citer du Shakespeare, mais Neville l'a pas laissé faire. Ils s'affronteront, affaire à suivre. Neville viendra d'ailleurs à la fin du match entre Gallagher et Dar pour défier Gallagher. Hein. Il vient avec sa ceinture, sa nouvelle musique, et puis voilà, il lève la ceinture au ciel. Affaire à suivre. Le braillard Akira Tozawa bat Daivari grâce à un German suplex avec Ponte. Sous les vivas de la foule, très populaire Akira Tozawa. Et backstage, on a Cesaro et Sheamus qui aident Bayley à s'entraîner. Voilà Tipa que Soft arrive, la team Soft, Enzo et Big Cass. Enzo commence à se moquer de Sheamus et de Cesaro. Sheamus veut dire quelque chose, mais il n'y arrive pas, il se plante dans sa phrase. Cesaro essaye d'enchaîner, mais de toute façon, on ne comprend jamais ce qu'il dit Cesaro. Enzo profère des menaces, il se cache derrière Cass. On continue à asticoter les anciens champions. Et du coup, ça nous book un match pour la suite. Et donc on aura Cesaro contre Enzo. Enzo Amore des grands soirs qui arrive, qui fait tomber son micro lors de son entrée. On nous claque une petite promo quand même, hein, le micro n'est pas cassé. Une promo à base de jeux de mots sur la Suisse et où on se moque un peu des gimmicks à répétition, les multi-gimmicks de Cesaro. Le match commence quand même. Enzo a oublié comment on catch. Il botche un passage par-dessus la troisième corde. Le public n'est pas dupe. You fucked up retentit. Cesaro, après avoir claqué quelques bons atimes dans la poitrine d'Enzo, le sèche rapidement avec un press European uppercut dont il a le secret. Et c'est le compte de 3. Ensuite, Big Cass vient sur le ring. Il cherche des noises à Sheamus. Cesaro calme le jeu. Voilà ce qu'il en est de ce Jobber's World. Un petit mot, Amiral, sur tout ça.
Petite précision, donc Kofi défait Bo Dallas avec un SOS hein, et pas un Trouble in Paradise. Hein. Donc ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Non, c'est un SOS, ouais.
Ouais, ouais.
Donc ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu.
Ma faute.
Ouais, ça, ok. Par contre, après, il force donc Bo Dallas à bouffer alors qu'il est au sol, terrassé par ce coup, à bouffer des boutilleuses, des céréales boutilleuses. Mmh. Donc là encore, on a des faces.
Du
qui,
bon goût.
Voilà. Hein, don't be bully, be a star. Voilà. Génial, très bon message pour les enfants. Et sinon, ouais, le segment, enfin le match Cesaro contre Enzo, c'était très bizarre. Hein. C'est dommage de voir Cesaro aussi talentueux se fader un Enzo qui, comme tu l'as dit, a botché pas mal à différents moments. Le moment où il passe pas par-dessus troisième corde et puis il passe tout seul est complètement ridicule. Ouais. Ça pourrait être presque drôle.
C'était tellement mauvais que ça en devenait presque
ouais,
drôle.
On sait pas trop, c'est bizarre.
Mais c'était triste pour Cesaro, effectivement, ouais. Qui est encore super populaire hein, auprès du public.
Ouais, il y a toujours la Cesaro Section qui est quelque part, c'est un gimmick bien installé auprès du public, mais.
C'est ça. Non, ils auraient pas dû leur enlever les ceintures, je pense, mais. Ma foi, c'est un peu triste pour eux.
Ouais.
On en verra, on espère, dans les semaines qui viennent.
Ouais, bah ça c'est quand même tag team, hein. Tag team division.
Cette satanée tag team, toujours aussi triste. Alors, j'ai une théorie sur les tag teams. C'est Paul London qui expliquait ça. Paul London, donc, qui était un des plus, des champions qui avait le plus long règne, hein, avec Brian Kendrick juste avant que le, enfin, juste avant, plusieurs années avant que le New Day ne fasse tomber le record, qui expliquait qu'au niveau de la WWE, au niveau des tag teams, ils ont qu'un seul projet, c'est de refaire les Legend of Doom, qui était la team qui rapportait le plus de pognon, de toutes les teams confondues. Donc pour le reste, ils n'ont pas vraiment d'idées, ils n'ont pas vraiment de ligne directrice. Donc voilà, Cesaro Sheamus, c'était un coup pour faire la team El No à nouveau, on va dire. Avec le New Day, ils ont réussi un truc qui a ramené du pognon, mais c'était pas gagné dès le départ. Hein. C'est, je pense pas qu'ils partaient sur un truc sur le long terme avec eux. Ils ont peut-être réussi le coup de nous refaire des Legend of Doom avec les Authors of Pain qui sont à NXT. Mais du coup, il va falloir attendre que les Authors of Pain débarquent pour que peut-être on se lance dans une vraie division tag team avec des grosses rivalités sur le long terme. En attendant, on voit bien qu'on est dans le au jour le jour un petit peu. Là, maintenant, les champions actuels qui jouent les gros bras, c'est pas ça qui va faire monter la division, quoi, on va dire.
Non, mais bonne théorie, ça explique beaucoup de choses, hein, ceci dit.
Ouais, voilà pourquoi ça patine. Alors, même quand le New Day était au top de leur popularité, la division en elle-même, elle était vachement bas. Il y a rien de la période du New Day. Il n'y a pas de rivalité dont on se souvient vraiment sur cette période-là. Voilà ce qu'il en est, un petit peu ce qu'on peut dire sur ces tag teams, ce qu'on peut théoriser. On va enchaîner sur du plus lourd. Samoa Joe, qui arrive à Raw en limousine, costard, accompagné de Triple H, et ce soir il est interviewé par Michael Cole, interview musclée. Michael Cole explique de suite qu'il trouve que les actions de Samoa Joe manquent d'honneur. Joe comprend, mais il s'en fout. Il explique que ses résultats parlent d'eux-mêmes, hein, puisqu'il voilà, il a déjà éliminé Rollins et puis il a déjà battu Roman Reigns, hein, finalement. Cole ne le nie pas. Il explique que beaucoup de gens, par contre, pensent que si Joe est arrivé dans le roster principal, c'est parce que Triple H a peur de Seth Rollins. Alors Joe, évidemment, il explique que Triple H, il n'a pas donné d'explication à qui que ce soit. Il a donné des opportunités à beaucoup de monde à NXT et a produit beaucoup de très bons athlètes. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a personne qui était au niveau de Samoa Joe. La seule raison, d'ailleurs, il explique pourquoi la WWE ne l'a pas embauché plus tôt, c'est parce qu'ils en avaient peur de Samoa Joe. Car c'est un homme dangereux. Bah, la preuve, c'est Rollins, il n'a pas tenu 2 minutes contre lui. Et puis d'ailleurs, Rollins, il va sûrement louper une seconde fois Mania. Grâce à lui, on peut dire. Mais alors là, Michael Cole explique que Rollins a annoncé qu'il reviendrait pour commettre une sorte de régicide, puisqu'il veut détruire Triple H, faire tomber Triple H. Triple H, Samoa Joe, là, il demande à Michael Cole, est-ce que c'est une interview sur Triple H ou si c'est, est-ce que c'est une interview sur Samoa Joe? Parce que là, on a Triple H toutes les 30 secondes, ça commence à suffire. Et il explique aussi que ça lui posera aucun problème de renvoyer Rollins à l'hosto, sitôt qu'il repointera son nez. Là-dessus, Michael Cole aborde ensuite le premier match de Samoa Joe à Raw la semaine dernière. Donc là, Joe explique qu'il a battu en 2 semaines, il a battu The Man et The Guy, et que ces 18 dernières années, d'ailleurs, il a détruit tous ceux qui s'étaient mis en face de lui. Lui, il vient pour révolutionner la WWE, pour marquer son temps. Il veut des victoires qui comptent, veut détruire ses adversaires. C'est pas comme un Sami Zayn qui est là juste pour participer en quelque sorte et puis qui est content. Voilà, lui il est là pour marquer son époque et puis surtout personne ne peut l'avoir en 1 contre 1. Pour finir, Michael Cole mentionne que Triple H a aidé de nombreux superstars comme par exemple le Heartbreak Kid, Shawn Michaels, Batista, Orton, Seth Rollins. Tout au long de sa carrière, il les a aidés, par exemple ces personnes-là, mais il a toujours fini par les trahir. Joe explique que, contrairement aux superstars cités, lui, Joe, il n'a pas besoin de l'aide de Triple H pour s'imposer, et ce sera bien la première fois que Triple H pourra se reposer totalement sur son bras droit, car Joe, lui, il sait ce qui est bon pour le business. D'ailleurs, si quelqu'un tente de s'interposer, ben il comprendra vite, pourquoi le créateur a lâché le destructeur. Fin de l'interview, il jette le micro. Voilà, c'en est fini de cette interview. Samoa Joe qui s'impose. Alors, on va peut-être enchaîner sur le match qui suit, parce que ça suit un peu cette interview. Donc, c'est Rousseff et Sami Zayn, hein, qui avaient été donc critiqués par Samoa Joe rapidement dans l'interview, qui s'affrontent. Donc, Handsome Rousseff, hein, qui vient avec son nez toujours cassé et un masque sur la tête, qui réussit à contrer tous les assauts de Sami Zayn, hein, qui pourtant utilise tout son arsenal de springboard, dive, des moonsaults, en veux-tu, en voilà. Rousseff domine Zayn, donc même quand il perd son masque de protection, il encaisse les sauts suicides, mais Rousseff quand même décide de laisser une chance au Canadien. Il lui laisse l'opportunité d'esquiver un splash dans le coin du ring. Rousseff, grand prince, se jette la tête la première dans le poteau, il passe par-dessus la troisième corde. Là, Zayn va en profiter pour essayer de lui placer un coup de pied sur la rampe, sur le côté du ring, sur l'apron du ring, mais il n'est pas assez rapide, décidément. Rousseff lui chope la jambe, il le fait tomber. Rousseff, quand même sympa, il lui donne un peu de temps pour respirer, il prend la pause. Après, il aide le pauvre Sami Zayn à remonter dans le ring. Mais là, au moment où le Bulgare essaye de remonter, le perfide Sami Zayn, il en profite pour lui placer un vicieux love kick. Là, Rousseff est KO, Zayn fait le tomber, c'est la victoire. Pauvre Rousseff. Sami Zayn, ensuite, est interviewé sur la rampe, juste sous le titantron. Il va en profiter pour tacler Joe de son côté. Voilà, il explique qu'effectivement il a eu des défaites, mais voilà ce que c'est Sami Zayn. On tombe, mais on se relève toujours. Une grosse victoire ce soir, et voilà que la musique de Samoa Joe retentit. On se retourne, on attend de voir débarquer Joe, mais Joe il vient sur le côté, il est malin et il défonce Sami Zayn. Il lui met la face dans le mur de LED là, et coquina clutch, on étouffe Sami Zayn. Samoa Joe qui marque un deuxième point dans la soirée. Qu'est-ce que t'as pensé de tout ça, mon bon amiral?
Très bon, l'interview était vraiment géniale. Un Samoa Joe en heel dominant, mais très calme. Une espèce de brutalité toute froide, en fait. Donc, il s'énerve pas. Jamais il hausse le ton, même à mon nez, quand il bâche Cole, quand il lui parle de Triple H. Il reste calme, mais menaçant à la fois. Donc, vraiment, au micro, là, il a démontré qu'il sait poser sa voix, il sait poser son personnage. Il a l'habitude, hein, ça fait... Donc, comme il le dit, 18 ans qu'il est sur le circuit. On l'a vu dans plein de fédérations faire le destructeur, hein, comme ils disent. Donc, c'est vrai que c'est une très bonne nouvelle, son arrivée dans le main roster. Et là, le maître, finalement, face à Sami Zayn, hein, puisqu'on peut imaginer qu'ils avaient prévu un programme contre Seth Rollins avant que Seth Rollins se reblesse à nouveau. Je trouve que c'est intelligent, puisque si on regarde les top babyface à Raw actuellement, on a Rollins qui est blessé, on a Roman Reigns qui, comme on disait encore, est super contesté par une partie du public, et puis c'est à peu près tout. Dans la top card, mid card, on a peut-être du Cesaro ou du Sami Zayn. Justement, Sami Zayn qui monte au fur et à mesure depuis 3-4 semaines de plus en plus dans la carte. Donc là, le mettre en face de Joe, je trouve ça super malin, surtout qu'ils ont donné un match il y a un an à NXT, un 2 out of 3 falls qui a duré quasiment une heure, qui était superbe. Donc les deux peuvent faire un truc énorme dans le ring, et j'espère que ça va mener à ça.
Exactement. Voilà, je suis tout à fait de ton avis, hein, Joe, qui montre son professionnalisme, son excellence. Et effectivement, le mettre contre Sami Zayn, c'est une très bonne idée. Voilà, on a hâte de voir la suite, du coup. Et puis, tout ça était très bien exécuté, hein, effectivement. Hein, l'interview était parfaite, et l'intervention hors du ring, avec ces belles droites-là, droite-gauche, ouais, de Joe dans la face de Zayn, ça va être... c'est deux adversaires qui sont faits pour se rencontrer.
Ça. Ouais, c'est assez impactant, et puis en plus, Zayn, il a ce profil d'underdog, un peu à Daniel Bryan, dans un sens, qui peut bien marcher, contre la Joe, qui était casse-gueule, quand on voit arriver Joe en costard, en limousine. C'est pas trop son personnage, d'habitude. Hein. Quand on regarde à NXT, c'est le mec qui est plutôt toujours en short de combat avec sa serviette. C'est pas le mec à porter du costard Armani. Donc là, ils en font un peu un collaborateur à Triple H, hein, comme on disait avec Andrew aussi l'autre jour, qui disait que c'est pas un mec qui bosse pour Triple H, c'est pas le nouveau poulain Triple H, c'est un associé. Voilà. Et dans l'interview, il dit mais les autres, les Shawn Michaels, les Seth Rollins, etc., ils ont toujours eu besoin que Triple H leur tienne la main. Moi, Triple H, il n'a pas besoin, je sais me débrouiller seul. Et moi, je vais l'aider car je connais le business et j'ai pas besoin qu'on m'aide. Donc c'est moi qui vais l'aider, Triple H, c'est pas l'inverse. Donc du coup, ça le place différemment par rapport à tous ces autres autres superstars avec lesquels Triple H a pu faire quelque chose. Donc du coup, le placement comme ça de ce nouveau gimmick, on va dire, de Joe est plutôt bien géré pour l'instant grâce à sa qualité au micro, hein, et sa présence, parce qu'il y a un charisme de malade, quoi. C'est vraiment, je pense que Cole à la fin, quand Joe se casse et Cole fait une tête en le regardant un peu, je pense qu'il avait vraiment l'impression d'être une biche avec en face un lion enragé, quoi. C'est
Ouais, il fait vraiment peur. Il fait vraiment peur, Joe. Alors effectivement, j'avais mis mes réserves la semaine dernière sur le traitement de Joe comme ça, qui visait un peu la bitch de Triple H. Bah,
pareil. Hein.
Voilà, on m'a fait mentir. Hein, donc moi, j'aime bien quand la WWE me fait mentir. Du beau boulot, du beau boulot. On voit un peu hein, l'excellence de ce Samoa Joe là. Toujours très content de l'avoir dans le roster. Et Rousseff qui perd. C'est pas si grave, on attend qu'il ait son nez réparé et puis on le repoussera un peu plus strong.
Je pense pas que ce soit très grave, puisque là l'idée, je pense, c'est de monter Zayn, hein, de montrer qu'il peut détruire, enfin qu'il peut battre quelqu'un du gabarit de Rousseff, qui a été quand même champion US pendant un long moment. Donc ouais, là l'urgence c'est de monter Sami Zayn, donc que Rousseff perde, c'est pas forcément trop dommage, puisque en plus Zayn a gagné grâce à un LWA Kit out of nowhere. Donc du coup la victoire était assez impactante, assez speed, donc c'est pas au détriment, je trouve, de Rousseff. Faudra qu'il fasse rebondir rapidement, qu'il lui redonne des victoires, mais non, je pense pas que ça ternisse sa splendeur actuelle, surtout que récemment il était en équipe avec EPO Gindermal contre les Sorts. Donc on peut dire que l'activité récente de Rousseff a été pas spécialement brillante non plus, donc
non, on aimerait bien le revoir un peu dans des programmes un peu plus sérieux d'ailleurs, ce bon vieux Rousseff. Allez, on va enchaîner sur un gros morceau, le Festival of Friendship, Festival de l'amitié. Alors, ça commence un peu plus tôt dans l'émission, en backstage, un Y2J surexcité qui vient s'enquérir un peu de l'état d'esprit de Kevin Owens. Alors, voilà, savoir si est-ce que Kevin Owens, le champion de l'univers, est prêt pour ce Festival of Friendship. Chris Jericho a préparé des tonnes de surprises pour son meilleur ami. En parlant de surprises, voilà que Triple H débarque. Il salue les deux athlètes et il demande s'il peut s'entretenir avec l'Universal Champ, mais seulement avec le champion de l'univers. Champion US est sur la touche. Et on verra un peu plus tard que Triple H et Kevin Owens sont en train de s'entretenir backstage, mais par contre, on n'entend pas ce qu'ils se disent. Suspense. Donc voilà le festival qui commence. Un message préenregistré de Y2J sur le Titantron pour souhaiter la bienvenue au public. Il a l'air vraiment heureux. Là-dessus, Chris Jericho débarque tel un Patrick Sébastien, un des grands soirs, avec des danseuses, une veste à paillettes blanche, un petit chapeau à paillettes un peu trop petit pour lui. Il arrive au ring donc accompagné de ses jolies danseuses. Kevin Owens est derrière, mais bon, il est un petit peu sur la réserve, hein. Il veut pas se faire accompagner par les danseuses, il les laisse aller devant. Donc les voilà au milieu du ring, donc il y a un décor, on voit qu'il y a des choses qui sont cachées par des draps, il y a un écran de télé, hein, le Jerichotron habituel. Voilà, donc c'est parti pour la grande soirée de folie. Y2J donc dévoile les cadeaux. Alors dans un premier temps, une belle sculpture du fameux sculpteur Ralph Guggenheim, sculpture à $7,000 qui représente l'amitié, hein, une espèce de serpent, hein, comme ça entrelacé, tout en or. Donc Kevin Owens est un peu perplexe, hein, $7,000, il se laisse convaincre, il dit bon d'accord, effectivement c'est une affaire, c'est vraiment très beau. Deuxième cadeau, une magnifique peinture qui représente Kevin Owens et Chris Jericho, évidemment. Donc c'est un pastiche de la peinture de Michelangelo, qui est la création d'Adam, c'est ça?
Ouais,
je l'ai juste.
Tout à fait.
C'est la création de Kevin. Donc là, il est déjà un peu plus perplexe, Kevin Owens, hein, parce que Y2J demande à ce qu'il l'affiche au-dessus de sa cheminée. Mais Kevin Owens explique quand même qu'il a deux gosses et que sur la peinture, Y2J n'a pas de pantalon. Y2J explique que c'est de l'art, donc on n'a pas besoin de pantalon quand c'est de l'art. Bon, allez, ça continue. Et là, on a un magicien, Friendship le magicien, qui sort des foulards de sa bouche, qui fait hop, de la flamme et une rose qui sort. Là, Kevin Owens, il n'est pas content du tout. Qu'est-ce que c'est que ce magicien de bas étage là? J'avais un magicien pour l'anniversaire de mon fils qui était plus doué, et le magicien avait quelque chose comme 9 ans. Donc là, Y2J, pardon, effectivement, il dit oui, là, c'est un petit peu cheap ce magicien Friendship là. Écoute, hop, magicien, je te mets sur la liste. Boum, un petit coup de la liste de Jericho. Et là, on passe aux choses sérieuses, hein, parce que Kevin Owens, bon, il aime bien la fête, mais il y a quand même ce match avec Goldberg pour le championnat qui arrive à Fastlane. Donc là, on call out Goldberg, comme on dit. On lui demande de venir, on lui lance le défi, parce que sinon, he's gonna get. Et là, c'est la page de pub. Y2J reste bloqué apparemment pendant toute la page de pub, puisqu'au retour, on l'entend, le hit qui revient. Et donc, on attend Goldberg. La musique retentit de Goldberg. Kevin Owens change de visage. Le monstre Owens ressurgit. Les feux d'artifice. Et voilà que débarque, non pas Goldberg, mais bien Goldberg, la pastiche que la WWE avait fait de Goldberg il y a quelques années, un homme qui a à peu près le gabarit de James Ellsworth, si vous voulez, grimé en Goldberg. Donc là, Kevin Owens, il en peut plus, il y va, il défonce ce pauvre Goldberg. Il remonte sur le ring, il dit « Écoute, je suis très déçu, Chris, moi je m'attendais à ce qu'on fasse un piège à Goldberg, qu'on le fasse vraiment venir et puis qu'on le blesse avant Fastlane. Là, tu m'embêtes avec tes trucs. » Alors, Y2J s'excuse, il dit ouais, excuse-moi, je trouvais que c'était marrant, Goldberg, mais je comprends, t'es stressé. Et là, il nous sort un speech qui vient du cœur. Il explique que c'est pas de la rigolade, ce Festival of Friendship. C'est vraiment sur ces 12 derniers mois, il a passé les meilleurs moments de sa carrière. Y2J, il y a une connexion qui s'est faite avec Kevin Owens. C'était vraiment que du plaisir pour lui cette année qui vient de s'écouler. Voilà, il lui déclare son amour. Voilà, c'est vraiment mon meilleur ami, Kevin. Voilà, Kevin Owens, bah, il se laisse attendrir et voilà, et bah, écoute, c'est vrai, on est les meilleurs amis, je t'adore aussi. Il explique que lui aussi, il a un cadeau pour Chris Jericho. Donc il lui rapporte une boîte, il lui dit c'est pas grand chose, mais c'est l'intention qui compte. Chris Jericho ouvre la boîte, il dit ah, c'est parfait, une nouvelle liste, parce que la mienne est toute abîmée, alors c'est vraiment pratique. Et il se penche, il regarde et il dit tiens, mais c'est bizarre, comment ça se fait qu'il y a mon nom sur la liste? Et il soulève la liste et là on voit que ce n'est pas la liste de Jericho, c'est la liste de Kevin Owens. Et Chris Jericho est le premier nom sur cette liste. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on est sur la liste de Kevin Owens? Eh ben, on se fait défoncer la gueule, on gonna get it. Et là, Y2J se fait détruire par Kevin Owens. C'est la fin de l'amitié, cette belle amitié. Ce Festival of Friendship termine dans la douleur. On écrase une larme. Y2J se mange la barricade. Il se mange la pop-up power bomb sur le tablier du ring. Et il se mange le Jerichotron. Voilà, ça se termine sur Kevin Owens qui lève sa ceinture au ciel. Je suis le champion de l'univers, je n'ai pas besoin d'amis, je n'ai pas besoin de Chris Jericho. Et on n'a plus que les yeux pour pleurer.
Bah c'est triste, c'est triste. On savait que ça allait arriver, mais voilà, c'est moche. Le segment était merveilleux. Hein. Voilà, il y avait la fête, c'était le Brésil, la samba, le carnaval. Ils ont mis le paquet sur les feux d'artifice quand Jericho est arrivé, donc ils ont mis effectivement un peu de budget sur cette séquence qu'il méritait. C'était super drôle avec ce Kevin Owens derrière, on sentait qu'il en avait ras-le-bol, mais il faisait plaisir à Jericho, c'était tout en finesse. Et le moment où Jericho change de ce côté loufoque et guignol pour d'un coup faire cette espèce de speech qui vient vraiment du fond du cœur, où vraiment on s'est dit ok, là c'est plus Jericho le personnage, mais c'est presque le performeur hein, qui parle, bah c'était super poignant quoi.
C'est ça.
On disait vraiment, ok, il peut vraiment dire ce qu'il pense, quoi, à ce moment-là. Il a switché en 2 secondes. Donc le rythme était merveilleux, et jusqu'à ce moment où, même sans se douter que la discussion plus tôt avec Triple H et Kevin Owens ne laissait rien présager de bon, eh bien, ça reste quand même la surprise que ça se fasse là, et je pense que c'était le bon moment pour le faire, quoi mieux que le Festival of Friendship, là où ils célèbrent leur amitié, où tout le long de la soirée, avant, ils mettaient des vidéos résumant ce qu'ils ont fait depuis des mois, là, pour l'avoir se briser, et pour préparer ce match à Mania qu'on veut tous voir entre les deux, c'est juste super. Donc voilà, il y avait, c'était bien construit, il y avait plein de petits clins d'œil. Le fait que Kevin Owens fasse la powerbomb sur le coin du ring à Jericho, bah, ça rappelle la fois où il l'a fait à Sami Zayn, hein, quand Kevin Owens a trahi son ami Sami Zayn à NXT. Quand il crache la gueule de Jericho sur l'écran, ça rappelle ce que Jericho a fait il y a bien des années contre Shawn Michaels, qui était alors son ami, qui avait initié son heel turn. Donc plein de petits rappels comme ça, une sorte peut-être de, pas de passage de torche, mais quelque chose dans cette idée-là. Et puis voilà, ça va vraiment solidifier les deux hommes, mettre Jericho dans la position du face qu'il doit être, tellement il est favori de la foule avec tous ces gimmicks que le public reprend en cœur semaine après semaine. Et ça va remettre Owens dans cette position de heel vraiment, vraiment salaud, vraiment dégueulasse, vraiment dangereux. Et ce qui est fort, c'est que Kevin Owens est quand même heel, hein, ça c'est clair. Il triche, etc. Et même s'il est heel, on avait l'impression de voir ce soir un heel turn. Alors qu'il était déjà heel.
Et ça, c'est pas faux.
Super fort. C'est super fort.
Ça, c'est fort. Ouais. Ouais. Un best-of de toutes les trahisons, là, ce soir. Bah, peut-être un des meilleurs segments de l'année, hein, même si l'année vient de commencer. Je crois que ça restera dans les annales, ce passage-là. Voilà, parfaite maîtrise de Jericho quand il sort son speech, effectivement. On sent que ça va du cœur parce qu'on voyait bien que sur cette année, effectivement, il s'amusait, Y2J, avec ses nouveaux catcheurs, là, plein de talents, les Zen, les Kevin Owens, les Cesaro et compagnie, et qu'effectivement avec Kevin Owens ça marchait bien, et du coup bah on est vraiment touché par cette rupture là. Voilà, il y a rien à redire, je pense qu'on est sur quelque chose de, on touche à la perfection pour un segment de Monday Night Raw sur cette histoire là
d'autant plus je pense que ça, ce segment là restera dans les vidéos top 10 des heel turns et trahisons. Je pense que ce segment là on le verra, la trahison de Kevin Owens à Jericho, parce qu'elle est vraiment très bien. Et quand on pense qu'ils ont construit ce programme là en plus ou moins de pansement, lorsque Balor s'est fait blesser donc dans son match Universal Championship, ils ont mis la ceinture sur Owens un peu par défaut, et de voir que malgré ce contexte un peu d'improvisation, ils ont réussi à monter un truc comme cette relation amicale entre les deux, c'est vraiment du beau boulot. Donc
Ouais. Comme je disais un peu la semaine pour le pay-per-view, donc pour le Rumble, suite au match Reigns Kevin Owens, voilà, si on s'est fadé un peu toute cette rivalité, enfin toute cette storyline qui était assez longue, qui parfois partait dans tous les sens, si c'est pour arriver à un moment comme ça, bah effectivement tout ça c'était bien joué, tout est pardonné, un vrai moment de Monday Night Raw. Voilà. Donc on va passer à la suite. On a fini avec les hommes sur cette note triste. Notre petit cœur brisé. On va enchaîner sur les filles pour se remonter le moral. Alors c'est l'arrivée tant attendue d'Emalina. 17 semaines d'attente. Voilà Emalina qui débarque et qui nous explique qu'on a été sage, qu'on a attendu et que maintenant ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir attendre le makeover d'Emalina vers Emma, et elle s'en va en nous remerciant. Voilà, coup dans l'eau. What the fuck. Voilà, apparemment tout ça a été un naufrage complet. Donc apparemment hein, elle n'a pas convaincu dans son personnage d'Emalina en backstage. Donc voilà, on va revenir à Emma.
Ce qui est bien, d'ailleurs.
Ce qui est bien, oui.
Oui.
Tout ça pour ça, voilà.
Vaut mieux, à la limite, qu'elle reparte vers là où on l'apprécie, quelque chose de plus dans le ring que dans la gimmick strass paillette Instagram, qui était super casse-gueule. À la limite, qu'on fasse faire un truc comme ça, quelqu'un qui s'est pas caché vraiment comme Eva Marie, ok. Mais quelqu'un qui a le talent des masses, c'est gâché. Donc, au final, que ce soit du fait qu'elle n'ait pas réussi à atteindre les attentes de la WWE dans ce nouveau gimmick, ou que ce soit elle qui se soit torpillée pour se dire « Ok, non, c'est naze ce truc, je ne veux pas le faire ». Quoi qu'il en soit, pour nous, c'est peut-être une meilleure nouvelle. Après, il faut qu'il lui fasse faire des trucs dans le ring, hein, parce qu'elle elle a le talent. Donc,
C'est pas comme s'ils avaient suffisamment de catcheuses à Raw pour se permettre de... d'en gaspiller une comme ça. Alors pour l'avoir vue en vrai, Emma, je comprends que ça ait pu leur passer par la tête d'en faire une espèce de Emalina, voilà, mais quand même, elle a du talent dans le ring, donc c'est pas, faut pas en faire une bimbo. C'était idiot dès le départ, de toute
non,
façon.
Et puis franchement, son gimmick, le dernier gimmick qu'elle avait, où elle arrive avec ses lunettes de soleil et son costume un peu strange, bah ça passait quoi. Elle s'est pété un peu gravure de mode, mais version badass. Je trouve que c'était là où ça pouvait marcher.
Ouais. Non, bah on espère que on la reverra quand même. Hein. C'est pas qu'elle est pas juste blacklistée comme une Paige ou je ne sais qui d'autre.
Ne parle pas de malheur.
Non, bah non. On en a besoin quand même dans le roster. Enfin, on en a besoin. Ce qu'on va voir, hein, parce qu'on a quand même un sacré programme pour ce soir au niveau des filles. Donc, alors un peu plus tôt dans l'émission, Bailey backstage, elle est interviewée, elle explique qu'elle est stressée, mais que c'est un stress positif. Elle se compare à Lita qui a gagné le titre face à Stephanie McMahon à une époque. Elle rappelle aussi que Steph ne croit pas en elle, mais ça c'est pas grave. Elle explique que voilà, au Rumble, elle est passée pas loin de la victoire. Ce soir, c'est sa seconde chance, elle va atteindre son rêve. Beau discours de babyface. Un peu plus tard, avant le match, on a Charlotte qui confronte Sasha Banks, confrontation virile. Voilà, Sasha, elle dit que arrête de te la péter, Charlotte. Hein, on sait que t'es pas si costaud que ça, que je pourrais t'avoir quand je veux. Charlotte lui dit non, tu peux jamais m'avoir. Arrête de te la péter. Moi là, je vais dans le ring et je vais gagner. Je vais faire ce que t'arrives pas à faire, c'est-à-dire gagner. Et puis elle la laisse là. Pauvre Sacha qui est très en beauté ce soir. Et donc voilà ce match en main event. Charlotte contre Bailey. Alors c'est un match spectaculaire, bien long, une quinzaine de minutes hein, je crois. Ouais. On a vraiment le droit à toute leur panoplie de coups. Des choses à retenir, 5 choses à retenir plus ou moins. Un moonsault de Charlotte depuis la barricade du ring, avec un bon genou là qui atterrit dans la face de Bailey. Bailey qui sur un roll-up est projeté à ras du sol dans le coin du ring, nuque la première contre la protection du ring là, ça fait très mal. Un violent kick aussi de Charlotte dans la face de Bailey à l'extérieur du ring, la tête de Bailey vient rebondir contre la barricade, ça aura très violent, on se croirait au Japon. On apprend également que Dana Brooke est encore en vie puisqu'elle débarque à un moment donné pour intervenir, mais elle se fait cueillir par Bailey. Bailey qui en profite en suite pour réussir à placer la prise en 4 sur la pauvre Charlotte, la championne Charlotte. Mais là, Dana quand même réussit à intervenir. Elle aveugle Bailey dans le dos de l'arbitre. Et là, Bailey se fait placer dans la figure 8, à deux doigts d'abandonner. Mais là, cinquième chose à retenir, pardon. J'ai presque le compte, même si voilà. C'est Sasha Banks qui débarque avec sa béquille, mais en courant. Un bon coup de béquille dans le dos de Dana Brooke. Un coup de béquille. Alors, dans le visage, ou dans la gorge, ou dans le thorax, ou dans les boobs de Charlotte qui est en train de porter sa prise en 8. Du coup, Bailey se dégage. Elle se relève. Elle arrive à placer Charlotte, la championne, dans le Bailey to Bailey. Bam! Tombé, 1, 2, 3, victoire, nouvelle championne, Bailey accomplit son rêve, explosion de joie, Sasha Banks est quasiment en larmes, Bailey va dans le public savourer sa victoire avec les fans qui bizarrement ne se jettent pas sur elle, je ne sais pas trop pourquoi, elle est quand même obligée d'aller dans les gradins, belle image de Bailey qui revient sur le ring, j'écrase une petite larme, elle est magique. Magique cette Bailey. Voilà, changement de titre, match phénoménal. Qu'est-ce que t'as pensé de tout ça, Amiral?
Super match. Enfin, Bailey qui fait un match référence dans le main roster. Hein, ça manquait jusqu'à présent. Et là, ils ont décidé d'arrêter les conneries qui lui faisaient faire à Raw qu'elle ne faisait pas NXT, comme quand elle tournait sur son adversaire au sol en toupie, en faisant des coups débiles. Bref, tous ces trucs-là qui étaient complètement superflus, pas nécessaires, ils les ont enlevés. Elle est revenue vraiment à son catch qu'elle avait à NXT. C'est tant mieux. 15 minutes, ce qui est bien plus que n'importe quel match féminin à Elimination Chamber. Donc là, joli coup encore hein, de faire un main event d'Euro sur un match championnat. Ça marchait bien. Il y avait des interventions, mais Bailey n'a pas vu hein, que Sasha Banks a frappé de sa béquille Charlotte. Donc pour elle... Elle reste quand même Babyface, hein, donc peut-être que ce sera l'occasion d'une petite brouille, on verra, puisqu'on sent poindre le heel turn, du moins l'aigreur de Sasha Banks d'être écarté de cette title picture, donc peut-être que ça va relancer un truc. Mais sinon, ouais, très beau spot, assez violent. Ils ont vendu pendant tout le début Charlotte qui attaque le cou de Bayley avec certaines prises qui étaient impressionnantes là-dessus. Bien construit, des near falls de folie, le public était en feu. Bref, tout était bien réuni et c'est pas dommage, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils l'ont fait maintenant, c'est que la semaine prochaine, Raw sera en Californie du Sud, de là où vient Bayley, donc forcément, homecoming de la nouvelle championne chez elle, ça promet un bon moment la semaine prochaine.
Ouais, célébration dans sa ville natale. Ouais, quelques spots de fou. Il y avait aussi un Hurricane Rana du haut du coin du ring là, qui était assez impressionnant. Et puis voilà, on est rassuré sur les talents de Bayley qui avait effectivement pas sorti de match phénoménal, même celui du Royal Rumble. Hein, on disait qu'ils en avaient gardé sous le coude, hein, et qu'ils n'avaient pas lâché les chevaux. Ben voilà, ben on en a la preuve ce soir. Et on est rassuré sur cette Bayley qui est quand même phénoménale dans le ring. Bon, voilà, encore une belle réussite, un gros main event. Voilà, moi je place ça aussi dans ma liste des matchs de l'année. Une liste assez longue, vous verrez, à la fin de l'année. Mais voilà, je pense que ça restera dans les moments qu'on se souviendra en 2017. Voilà, donc grosse victoire de Bayley, changement de titre, un Raw historique dont on a fait le tour, donc ça va être l'heure du mot de la fin. Ton top, ton flop, ta note, Amiral, nous t'écoutons.
Alors mon top, ça sera le segment Festival of Friendship, hein, qui est tout juste merveilleux de storyline, d'entertainment de la part de Jericho, du jeu d'Owens aussi qui était dans la subtilité, vraiment rien que pour ça, pour le match de femmes et pour l'interview de Joe. Ce Raw vaut le coup, clairement. Mon flop, ça va être le segment d'ouverture. Hein, on est parti très mal. Heureusement qu'il y a eu plein de trucs pour rattraper ça, mais des ouvertures comme ça, c'est la 12e ou 15e fois depuis le Brand Split qu'on a des débuts avec Steph, avec Roman Reigns, et ça ne marche pas, ça ne marche jamais. Il faut arrêter. Et ma note, eh ben, un bon 4 solide.
Un 4 solide. Voilà. Alors... Moi, mon top, du coup, je vais me donner à Bayley, qui a fait son match référence de sa carrière. Voilà, moi, voilà, quand je regarde du catch, c'est pour ça. C'est pour le Festival of Friendship. C'est pour Samoa Joe interviewé badass et qui vient casser des têtes après. En flop, je vais mettre bon vieux Enzo, qui, quand il a comme ça du temps d'antenne tout seul, faut quand même qu'il fasse un peu attention à ce qu'il fait. Même si on lui pardonne, hein, c'est un duo micro, donc ça reviendra, mais quand même. Et puis ma note, je vais aussi mettre un bon 4, un bon gros 4. C'était vraiment un excellent Monday Night Raw. Voilà, on a fait le tour de la question. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur iTunes, sur YouTube, hein, parce que désormais on est en vidéo. On se retrouve aussi sur PodCloud si vous voulez rester sur de l'audio simplement. Qu'est-ce qu'on peut dire encore ? On a le Twitter, CatchUpCDC. On a le Facebook, CatchUpCDC aussi. Venez sur les cahiers du catch, hein, parce qu'on est quand même le podcast officiel des cahiers du catch. Donc, venez sur le forum, venez poster des articles. Voilà, c'est sympa. Vous pouvez même parler avec nous ou avec d'autres personnes, si on vous ennuie. Amiral, je te remercie beaucoup.
Mais c'est un plaisir de commenter un Raw si génial. Donc, espérons que le prochain sera aussi bon.
C'est ça, plaisir partagé. Une pensée pour Hank, hein, parce que bon, c'est la deuxième fois qu'on enregistre l'émission, on a eu un petit problème technique, on pense à lui fort. Peut-être que vous aurez une version retravaillée où il sera là au début, pas à la fin, ça c'est suivant notre tambouille interne. N'oubliez pas le supplément SmackDown qui arrive incessamment sous peu. Et puis pour le reste, abonnez-vous. Si vous êtes abonné, bah, vous avez vu qu'on a fait aussi un catch-up sur le Elimination Chamber. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, il est temps de vous abonner, les amis. C'est gratos. Et voilà, bah, pour le reste, on se dit à la semaine prochaine. Et puis je vous souhaite une excellente semaine pleine de catch. Ciao.
Salut.